Merci beaucoup, Adélaïde.
And congratulations for this brilliant introduction. For us academics, sometimes when we wonder what we do with our lives and we see the la relève coming up this way, we feel validated. Not that I can take any credit for this, because as Adélaïde underlined, while I was very enthusiastic from the beginning, and I have remained very enthusiastic, I rapidly left on a sabbatical when all the hard work had to be done, and the hard work was carried on incredibly well by Adélaïde, the team that she mentioned, and with the academic support of Julie Allard, whom I'd like to salute here again. Dear justices, dear colleagues, dear students, thanks again for coming from so far away. Some of you have arrived this morning from the United States with basically no sleep. Some of you have come from as far away as the northern hills of mountains of India. And our students have come from Mols this morning. Those of you who come from away don't know this, but it's a smaller university with which we are attached. ULB teaches there. And our students got up at 5 this morning to come and participate. So thank you very much. I salute you. There are also students taking a course in English for the first time in their lives. So this is part of the training. I was a law student, so get the age right, when Bertha Wilson asked the question whether women judges would really make a difference. Even back then, for me and for my colleagues, the answer was obvious. It made a difference that a woman was there. It certainly made a difference. Perhaps it wouldn't make a difference in terms of case law. We didn't know that. But it made a difference in terms of legitimacy of what we were doing as students. We had a role to play in the evolution of law and the development of law and just being in the legal world. And that was in Montreal, in sort of halfway between the civil law and the common law world. So what you talked about this morning is certainly not very recent. Just rereading Bertha Wilson's words last week, as our students did as well, I'm sure. This paper was written in 1990, so get the dates. Two things struck me. One was the humility with which she was speaking. Actually, three. The second was the incredible relevance of what she was asking. And the third one was basically all our references were, and you won't be surprised, it certainly confirms your theory, Adélaïde, were from the common law world. And basically American. You know, this is where the legal literature was at that stage. And it's almost as if the rest of the world didn't exist. And I'm certainly not, you know, making a judgment about Justice Wilson. I think she was opening a door. It was an incredible statement that she was making. But her references were from the common law and the Western world. Yet she did finish her paper by quoting a conference, conclusions of a conference by the Council of the Council of Europe, so in Strasbourg, in which the issue of neutrality of the judiciary was set within the context of the full humanity, and you have to take into consideration men and women in full humanity. So there was also an outreach across the ocean and across legal cultures, although it wasn't explained in such words at that time. So, today's session is a taking stock session. It's a bilan. We want to challenge, perhaps, or confirm what Adélaïde has told us this morning about where women are. We will do this, of course, in a schematic way. We cannot travel the world as widely as we would have wished, but a recent book by our colleague Ulrike Schulz and Shaw does cover a lot of that territory. So we kickstart with this exploration by having pictures of where women stand in the civil law world, in the common law world, with some mixed legal cultures, of course, in India, and in international courts. We will have two presentations before the coffee break, then a coffee break, two more presentations, lunch break, and then two other presentations afterwards. Just a word of logistics. For the coffee break, you can take your headphones with you. Please do not lose them. They are extremely precious. And at lunch, please leave them at the desk when you leave. Each speaker will have 20 to 25 minutes. I think I need to keep the watch very tightly because it's a long day and we have a lot to discuss. But let me first start by very briefly introducing our speakers today. Anne Boisjol, sociologue du droit, a longtemps œuvré au sein du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique français. Elle est aujourd'hui chercheuse associée à l'Institut des sciences sociales du politique, bien connue sous le nom l'École normale de Cachan. Madame Boisjol a notamment été présidente du comité de recherche de sociologie du droit de l'Association internationale de sociologie. Ces dernières années, notre conférencière a travaillé à la fois sur les questions de la formation de la magistrature et sur les questions de genre dans les professions juridiques et judiciaires. Parmi ses très nombreuses publications, l'on notera particulièrement une récente contribution sur le genre dans l'ouvrage collectif de Schulz et Schaa, dont il y a des publicités en fait à l'entrée, Gender and Judging, Madame Boisjol donc nous parlera de la situation en France. La professeure Vielle, qui réapparaîtra, j'imagine, enseigne entre autres le droit de la sécurité sociale à dans une perspective tant nationale, comparative, européenne qu'internationale à l'Université catholique de Louvain. Ses recherches s'inscrivent clairement dans une perspective pluridisciplinaire et elle s'est notamment penchée sur la conciliation de la vie familiale et professionnelle, l'état social actif et l'égalité des hommes et des femmes. De 2004 à 2006, elle a assumé la première direction de l'Institut fédéral belge pour l'égalité des femmes et des hommes, et elle est membre depuis 2008 du Conseil supérieur de la justice de Belgique. Ainsi qu'Adélaïde l'a souligné tout à l'heure, Madame Boisjol, Madame Vielle, avec Madame Bellot, sont parmi les pionnières dans le monde civiliste francophone, en tout cas, à s'être intéressées à la place des femmes dans la magistrature. Alors, c'est vraiment un très, très grand privilège de vous accueillir aujourd'hui, et je vous cède la parole. Merci.
Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les organisatrices, l'équipe d'organisatrices, d'organisateurs de m'avoir invitée à ce colloque. Je suis extrêmement honorée de pouvoir parler aujourd'hui devant vous et surtout enfin, de voir quel succès ce colloque et le thème de les femmes dans la magistrature rencontrent parmi vous et en Belgique. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur cette question il y a une vingtaine d'années, je me sentais un petit peu seule. Et maintenant, je dois dire, je suis extrêmement heureuse de voir les développements que prennent cette recherche sur le genre de la magistrature. Je vais donc vous parler de la magistrature en France. Et le titre de ma communication qui m'a mis sur le PowerPoint, c'est « D'un déséquilibre des sexes à l'autre, la balance des sexes dans la magistrature française et ses enjeux ». On vous l'a dit, la magistrature française est une des plus féminisées d'Europe, avec les anciens pays de l'Est et les pays un petit peu de l'Europe du Sud aussi. Pourtant, la France n'a pas été particulièrement précoce pour accorder le droit d'entrer dans la magistrature aux femmes, puisque ce n'est qu'en 1946, après que le droit de vote leur ait été accordé, qu'elles obtiennent le droit, que les femmes obtiennent le droit de devenir juges et procureurs. Hein, sachant pour les personnes de common law, le terme magistrat recouvre à la fois les juges et les procureurs. Les résistances à l'entrée des femmes dans la magistrature ont été extrêmement fortes et elles ont perduré bien au-delà de la date formelle. Ça va pas ? Ah, d'accord. Voilà. La loi votée, donc les femmes sont devenues magistrates et elles ont été nombreuses à intégrer cette profession. La progression a d'abord été assez lente et puis à partir des années 1970, avec l'arrivée des générations d'après-guerre et le recrutement de grosses promotions à l'École nationale de la magistrature, elles vont être de plus en plus nombreuses à devenir juges et procureurs. à tel point qu'en 50 ans, on est passé d'une magistrature essentiellement composée d'hommes à une magistrature très largement composée de femmes. La question qui se aujourd'hui n'est donc pas celle qui se pose dans beaucoup de pays de common law, à savoir comment augmenter le nombre de femmes, mais plutôt de comment augmenter le nombre d'hommes. Mais cependant, la féminisation ne veut pas dire, comme vous pouvez l'imaginer, ne veut pas dire parité. Il y a un an, un groupe de travail sur la parité a été créé au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense qu'en Belgique, vous avez l'équivalent, qui est donc l'organisme qui contrôle les nominations au siège. Et il vient de rendre son rapport, ses conclusions, dont j'évoquerai brièvement à certains moments de ma communication. Et c'est un document extrêmement intéressant qui est publié dans le rapport annuel d'activité du Conseil supérieur de la magistrature. J'aborderai donc successivement le processus de féminisation et essayer de l'analyser, la féminisation différentielle des mais selon les métiers, la persistance d'un plafond de verre, puis j'aborderai brièvement les différents débats que la féminisation a suscités. Alors, c'est pas ça. Voilà. La magistrature judiciaire donc compte en janvier 2013 60% de femmes. La tendance n'est pas prête de s'inverser car la proportion de jeunes femmes admises chaque année à l'École nationale de la magistrature est très importante, entre 72% et 80%, voire même plus certaines années. Cette année, justement, il n'y a eu que 72% de femmes dans la promotion 2013, ce qui a été souligné comme étant peut-être l'amorce d'un renversement de tendance, mais je n'y crois pas beaucoup. Il y a trois concours pour rentrer dans la magistrature, enfin, il y a différentes modalités, mais notamment trois concours. Le concours étudiant, dans lequel il y a effectivement une majorité de femmes. Le deuxième concours, qui est un concours ouvert aux fonctionnaires du ministère de la Justice, qui est un concours interne. Là aussi, il y a des femmes, comme vous le voyez, 68%, mais un peu moins. Un troisième concours qui est ouvert aux gens ayant eu une activité dans la société civile. Cette année, bon, il n'y avait quasiment personne. Et il y a une quatrième voie d'intégration à l'École de la magistrature, c'est l'intégration directe de professionnels. Et là, donc, il n'y a pas de concours. Et là, comme par hasard, il y a un peu moins de femmes et un peu plus d'hommes. Donc, ce dont je vous parle, c'est la magistrature judiciaire. Il y a à côté une magistrature administrative aussi, qui est recrutée selon d'autres modalités, en particulier par le concours de l'École nationale d'administration et par d'autres voies également, et par notamment un autre concours. Et là, il y a nettement moins de femmes. Il y a seulement 40% de femmes. Donc, la progression des femmes dans la magistrature se fait surtout à partir des années 70, dans lesquelles elle est extrêmement forte. Et entre 69, par exemple, et 2010, le nombre de femmes dans la magistrature a été multiplié par 14,2, passant de 350 à 4810. Alors, la féminisation, donc, ça constitue vraiment le trait majeur de la transformation du profil sociologique de la magistrature depuis la Deuxième Guerre. Mais il ne doit pas être considéré, ce trait ne doit pas être isolé de l'ensemble des transformations qui ont affecté la magistrature. Plus précisément, l'admission des femmes au sein du corps et surtout leur progression spectaculaire est contemporaine du passage d'une logique de recrutement fondée sur la mobilisation du capital social, qui caractérisait l'ancien mode de recrutement de la magistrature, à une logique de professionnalisation. La création en 1958 d'une école spécifique destiné à former les magistrats, instaurait un nouveau mode de reproduction des magistrats qui a consacré le passage de la magistrature comme un état à une magistrature profession accessible à qui réussissait le concours. Certes, il y avait déjà un examen professionnel, mais à côté de ce recrutement par examen, il y avait toujours un recrutement discrétionnaire. Aujourd'hui, la féminisation de la magistrature est logique si on considère que la féminisation des facultés de droit, qui est effectivement qui caractérise la plupart des pays, 64% des étudiants de droit sont des étudiantes. Pour comprendre cette situation, il faut un petit peu revenir en arrière, et les sociologues de l'éducation nous apprennent qu'il faut rechercher dans la manière dont les garçons et les filles sont socialisés dès leur plus jeune âge, à l'école primaire, voire à l'école secondaire, pour comprendre ces orientations. Et des sociologues comme Baudelot et Stablet ont montré que l'orientation des filles et des garçons vers des filières différenciées commence très tôt. Hein. Les garçons sont davantage orientés vers les filières scientifiques, les maths, la technologie, et les filles vers les filières de lettres, les sciences humaines, les sciences de l'homme, bon, même si évidemment tout ça change. Non seulement elles sont plus nombreuses que leurs collègues masculins à s'orienter vers les études de droit, mais elles réussissent mieux aussi. Et là aussi, les sociologues de l'éducation montrent que les filles ont davantage intégré les normes académiques, soucieuses d'être en conformité avec les règles de la vie scolaire, que les garçons, qui se socialisent plus à l'extérieur de la classe d'école, hein, je parle effectivement des petites classes, dans des batailles, le sport, etc. Donc, voilà, il y a plus de femmes dans les professions, à la faculté de droit. Toutes les professions juridiques et judiciaires se féminisent, mais avec des niveaux et des calendriers différents. Les différents taux de féminisation des professions renvoient à l'histoire de ces professions, à leur fonctionnement, à leur modalité de recrutement, notamment pour les officiers ministériels. Vous savez que les notaires, en particulier, ont été recrutés pendant très longtemps, ils le sont encore, suivant des principes de cooptation. Hein. Or, la cooptation favorise la reproduction à l'identique, donc favorise les hommes aux dépens des femmes. Mais la situation évolue avec le développement de filières universitaires, de formation des notaires, et même le notariat se féminise. On n'a seulement que 25% de femmes parmi les notaires, on n'est pas au même taux. À l'inverse, la sélection par concours a donné toutes leurs chances aux femmes, car il n'y a pas vraiment de discrimination de sexe, du moins pour les épreuves écrites. Hein. Cela ne signifie pas que le recrutement soit parfaitement démocratique. Hein. Il y a très peu de magistrats issus de milieux très populaires. Les magistrats sont principalement issus des classes, professions libérales, professions cadre supérieur, secteur public, beaucoup. Voilà. Donc, après cette brève description de la féminisation, je vais passer à mon deuxième point, qui est la différenciation des métiers selon le sexe. La féminisation des différents métiers de la magistrature ne s'est pas faite de façon homogène. Comme dans d'autres professions, l'entrée des femmes s'est accompagnée d'une différenciation des métiers suivant le sexe. Et d'ailleurs, dès le départ, certains métiers étaient considérés comme convenant davantage aux femmes qu'aux hommes. Imaginez que c'est effectivement la fonction de juge des enfants elle n'a pas été créée pour les femmes parce qu'elle a été créée en 45 et à 45 il n'y avait pas encore de femmes, mais elle a tout de suite été considérée comme étant tout à fait celle qui convenait aux femmes. Les femmes ont été également plus présentes, représentées dans les fonctions du siège, hein, comme juge du siège. Et dès le départ, on avait considéré qu'elles n'étaient pas du tout aptes à occuper les fonctions du parquet et les fonctions de juge d'instruction. D'ailleurs, il y avait eu un avant-projet de loi en 1945 visant à limiter l'accès des femmes aux fonctions du siège. Heureusement, ça n'a pas été retenu. De fait, les femmes se sont majoritairement orientées vers ces métiers qui étaient définis comme étant plus féminins, étant aptes à être convenant aux femmes, et elles ont occupé des fonctions donc, de siège. Et encore aujourd'hui, vous voyez, 58% en 2010 de femmes juges, 76% de femmes parmi les juges des enfants, 55% parmi les juges d'instruction. Il n'y a que le ministère public qui est encore en dessous de la barre des 50%. Alors, dans le deuxième grade, c'est la première partie de la carrière, là où il y a donc tous les jeunes magistrats. Vous voyez que là, toutes les fonctions sont féminisées, c'est-à-dire que les jeunes femmes qui sortent de l'école de la magistrature, elles deviennent aussi bien, plus juges des enfants, toujours. Il y a toujours une certaine hiérarchie, mais quand même, elles sont 65% au ministère public. Enfin, les écarts se resserrent. Les seules positions maintenant qui demeurent extrêmement masculines et peinent à accueillir des femmes sont les postes de chef de juridiction et plus généralement les postes de la haute hiérarchie judiciaire. Celle qui apparaît dans les grilles indiciaires comme HH, c'est-à-dire hors hiérarchie, c'est les postes les plus élevés. Alors, voilà. Comme le note le rapport d'activité du Conseil supérieur de la magistrature qui vient d'être publié, au 1er janvier 2013, 77% des présidents hors hiérarchie sont des hommes, 78% des hommes hors hiérarchie sont des hommes. C'est-à-dire que les femmes sont quand même très, très minoritaires dans ces positions. Plus généralement, si on considère l'ensemble des postes de président et de procureur, il y a 50 femmes présidentes sur 165 et 30 femmes procureurs sur 165, ce qui fait respectivement 30% de femmes chez les présidents et 18% de femmes comme procureurs. Bon, l'explication de cette situation qui est quand même un peu paradoxale, parce que compte tenu de l'importance de la féminisation de la magistrature et donc du vivier susceptible de fournir des chefs de juridiction, il y a vraiment un problème. Pendant longtemps, on a pu penser qu'il suffisait d'attendre que par le simple jeu de la démographie, la progression des femmes, elles accéderaient naturellement aux fonctions les plus élevées. Il y a une petite progression, mais quand même, rien de proportionnel à leur poids réel dans la magistrature. Comme le souligne l'étude du CIVIPOF, qui est une étude qui a été menée par ce centre de recherche de Sciences Po pour le Conseil supérieur de la magistrature, cette approche en termes démographiques méconnaît la différenciation des carrières en termes de temporalité, de spécialisation et de mobilité. Je vais y revenir. L'argument principal utilisé pour expliquer la rareté des femmes au sommet de la hiérarchie est qu'elles ne postulent pas, voire qu'elles sont victimes d'une sorte d'autocensure. C'est une manière d'attribuer la responsabilité de cette exclusion aux femmes elles-mêmes, bien sûr. Mais ce que montrent les travaux sociologiques est que ce choix est sous contrainte. Le caractère encore largement asymétrique des rapports sociaux de sexe dans la famille limite les possibilités de carrière des magistrates et notamment les possibilités d'accéder au poste de chef de juridiction. Ces contraintes font qu'il est plus difficile pour elles de correspondre au modèle de carrière, de faire les choix qui conduisent en général aux fonctions les plus élevées. Ces contraintes sont d'ailleurs en partie intériorisées par les jeunes femmes, ou par certaines d'entre elles, dès leur période de formation à l'école de la magistrature. Nous avions fait une enquête, c'était à la fin des années 80, où on demandait auprès des auditeurs de justice à l'École nationale de la magistrature, on leur demandait comment ils voyaient la fin de leur carrière. Et tous les jeunes hommes se voyaient chef, premier président d'une cour d'appel, Et les jeunes femmes étaient beaucoup plus incertaines. Elles disaient, on verra, ça dépend. Enfin, c'était bon, vraiment déjà des projets, ce qui ne voulait pas dire qu'elles n'avaient pas d'ambition, hein, pas du tout, mais simplement, elles intériorisaient le fait qu'elles auraient peut-être une famille, peut-être des enfants, et que ce serait un paramètre à prendre en compte dans leur carrière. Il y avait eu une enquête qui avait été faite en France, en Italie et dans deux autres pays, Espagne et Roumanie, à l'initiative, financée par la Commission européenne sur l'accès équilibré des hommes et des femmes aux fonctions de responsabilité. C'était une enquête en 2004 qui a été menée en France et donc dans ces pays. Et on voyait bien quoi, que les femmes... une large majorité de femmes magistrats, comme des hommes, 77% et 87% se disaient être intéressés par les fonctions de chef de juridiction. Mais si une majorité de répondants masculins disaient avoir postulé, avoir posé leur candidature, 61%, seule une petite minorité de femmes, 22%, disaient qu'elles l'avaient fait. Donc, et elles invoquaient les charges familiales qui les avaient empêchés de mener à bien leurs ambitions de professionnelles. Nous avons aussi évoqué une tendance, une autre hypothèse pour expliquer la rareté des femmes nommées à la tête des tribunaux, c'est la tendance à l'autoreproduction des instances chargées de la nomination, qui a été observée également dans la haute qu'on observe également dans la haute fonction publique. C'est le Conseil supérieur de la magistrature donc, qui choisit les futurs présidents de tribunal ou de cour d'appel, comme tous les magistrats du siège. Cet organisme était composé pour l'essentiel de magistrats de sexe masculin, et ses membres ont pu avoir tendance à proposer des candidats qui leur ressemblent aussi, considérant que ce sont ceux-là qui conviendraient le mieux à la fonction et préservant ainsi le caractère masculin de ces postes. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient a priori hostiles à la nomination de femmes. Non, pas du tout. Mais cela devait rester une exception. Et le fait que peu de femmes postulent les confirmait dans l'idée qu'ils avaient fait le bon choix. Le témoignage d'une femme qui a été avocat général, qui a été membre du Conseil supérieur de la magistrature dans les années 2002, est intéressant parce que justement, elle avait soulevé la question de la parité au sein de ce conseil. Et elle dit, dans une petite communication qu'elle a faite, s'être heurtée à une très forte résistance des hommes du Conseil. Et ce qu'elle a fait, elle a fait publier les statistiques de nomination, candidature et nomination, et dont il résultait que, quand même, certes, il y avait peu de femmes, mais en plus, elles avaient peu de chances d'être nommées. Depuis, la composition du Conseil supérieur de la magistrature, en particulier depuis 2011, a changé. Il n'y a pas beaucoup plus de femmes, il y a un peu plus de gens extérieurs, et surtout, ils se sont saisis, ils ont quand même considéré qu'il y avait un problème, et ils se sont saisis de cette question. Alors, donc, l'autre raison qui est invoquée pour expliquer la rareté des femmes, c'est les conditions... les biais de genre qu'il y a dans le processus, dans les critères retenus pour devenir chef de juridiction, en particulier la rigidité des critères de mobilité. Et c'est ce qui est dénoncé par le groupe, l'étude du CVPOF, disant que ça constitue un obstacle structurel l'accès des femmes. Alors, pour terminer... Le déséquilibre des sexes dans la magistrature, les débats et les enjeux. Bon, la féminisation, c'est une préoccupation générale. Enfin, ça apparaît régulièrement dans le discours des politiques. Il y a pas assez d'hommes. C'est plutôt la démasculinisation. Il n'y a pas assez d'hommes dans la magistrature. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature, par rapport à ça, on considère qu'ils n'ont pas trouvé la pierre philosophale qui permettait de faire venir plus d'hommes. Mais bon, ici, ils font un certain nombre de suggestions sur lesquelles je pourrais revenir dans la discussion. Alors, il y a le deuxième point que j'ai mentionné, c'est la féminisation, oui, dévalorisation. C'est un thème qui a été souvent abordé par les magistrats eux-mêmes, qui voyait dans le signe de cette féminisation un signe de baisse de prestige. Or, pour qu'il y ait des valorisations, il faut qu'il y ait eu valorisation avant. Or, la magistrature, ça fait longtemps qu'elle n'est pas très valorisée, elle est plutôt plus valorisée qu'elle ne l'était à une certaine époque maintenant. Le deuxième point qui peut contribuer à donner cette impression, c'est que la magistrature représente une offre d'emploi restreinte. C'est-à-dire que chaque année, on recrute, selon les années, entre 80 et 250 magistrats, quand on recrute, par ailleurs, 1500 avocats. Donc, si on est un étudiant moyen, etc., on a plus intérêt à rentrer au barreau qu'à essayer de rentrer dans la magistrature, qui est un concours extrêmement difficile et dont les chances de succès sont quand même limitées. Bon, cela, plus ajouter à cela la polarisation actuelle sur le barreau d'affaires qui constitue un pôle extrêmement dominant dans le champ juridique, fait qu'effectivement la magistrature n'attire pas énormément autant de monde qu'on pourrait le souhaiter. Alors, pour le deuxième point, le sexe des juges interpellés. Pour beaucoup de magistrats, notamment, et de juristes traditionnels, le sexe des juges c'est un non-objet. Hein. Et je cite Robert Badinter, qui disait, ancien président du Conseil constitutionnel, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement éminent, qui disait « En matière judiciaire, ce n'est pas concevable. Il n'y a pas plus une manière masculine ou féminine de juger ou de poursuivre qu'il n'y a une manière masculine ou féminine d'enseigner, de plaider ou de gouverner. » Bon, voilà, il représente tout un courant qui est encore assez vivant, mais qui est quand même un peu maintenant fragilisé. L'impartialité des femmes juges de la famille est parfois questionnée. Adélaïde a mentionné cette recherche très intéressante dont un article a été publié par Céline Bessière dans Sociologie du travail, où on montre effectivement qu'il y a un impact du genre sur la manière de juger, mais pas tellement sur la décision, les décisions qui sont prises par les juges de la famille. Alors, la question qui est importante, oui, je termine. Hein. La question de la mixité comme condition d'une plus grande impartialité, c'est une question qui a un petit peu de mal à émerger en France, hein, qui n'est pas encore tellement travaillée, et alors qu'elle est effectivement soulevée dans les pays de Comello. Adélaïde en a parlé, c'est la fonction judiciaire en France n'est pas personnalisée comme elle l'est dans les pays de common law, et donc c'est un peu plus difficile d'imposer dans ces termes-là. Il n'en reste pas moins que nombre de magistrats estiment qu'il serait préférable que les formations de jugement des tribunaux soient mixtes pour l'image de la justice, la représentation que les justiciables en ont. Voilà, juste pour terminer, je voudrais dire quand même, effectivement, j'en ai parlé de l'importance des directives, enfin des recommandations de l'Europe, hein, qui constituent quand même un levier pour faire bouger les choses et pour éliminer toutes les sources de discrimination, y compris dans la magistrature. Voilà, et je vous remercie.